Puisqu'on voit que ce que l'on essaie de faire, c'est en quelque sorte un tableau composite avec des personnages qui sont de différents, on va dire, de différentes périodes. Alors, nous en avons déjà parlé. Ce qui est à l'origine de l'opéra, c'est ce qui se passe à la fin du XVIe, début du XVIIe. Notamment dans cette... Il y a bien sûr le Tasse avant, qui est un peu en avant, on en parlera peut-être un peu, mais c'est essentiellement l'apparition dans cette camerata du comte Bardi, l'apparition à certains moments de l'Orphée de Péri. Et à partir de là, est mise en évidence, bien sûr, l'importance de la voix. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'opéra ne vient pas à la suite de besoins musicaux particuliers. Hein, c'est à la fin de la Renaissance, c'est-à-dire on ressort en quelque sorte les antiquités gréco-latines, et puis on les utilise pour faire passer un certain courant. À la fin de ce courant, de la Renaissance, va apparaître, en même temps que va se développer, les Lumières, que va se développer la pensée scientifique, va donc apparaître cette question de l'opéra. Alors, ce que je voulais faire apparaître sur le tableau, c'est qu'en même temps, quelques années près, nous sommes en France au moment où Descartes, qui a lancé la question du cogito, ergo sum, j'en ai parlé il y a un peu plus d'un an à l'UNESCO dans un exposé intitulé Le droit du féminin. À ce moment-là, donc, 1919, Descartes écrit une note à son maître, Beckmann, qui, bien sûr, va être interprétée de différentes façons, selon ceux qui vont la lire. Cette note est elle est la suivante. « Sur le point de monter sur la scène du monde, je m'avance masqué. » En latin, ça se dit « larvatus prodeo ». On a beaucoup parlé de ça. On a même décomposé Prodeo en deux mots pour montrer l'importance du savoir de Descartes et notamment de sa position et notamment du savoir de cette école qui était la sienne, qui était celle des Jésuites. Et on a pu relever aussi bien une juxtaposition qu'une séparation entre la dimension, on va dire, de la théologie et de la philosophie. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de repérer donc 1600-1619, parce que bien sûr, c'est de ça dont il s'agit. L'opéra, ça va être quand je m'avance sur la scène du monde, au moment où je m'avance sur la scène du monde, au moment de monter sur la scène du monde, je m'avance masqué. Alors, c'est intéressant parce que l'arbatus, c'est même aussi ensorcelé. C'est intéressant parce que là, évidemment, on a pensé à toutes sortes de choses, et notamment au masque le plus évident, qui est le masque de fer. Mais ce qui est important de remarquer, comme si on prend cette phrase d'une certaine façon, en dehors du discours habituel de la pensée, de la compréhension, d'un discours associatif, où on rapproche les éléments pour un peu mieux comprendre les choses, ce qui est important de penser, c'est que, Prodéo, peut-être, après tout, pourquoi pas, mais c'est la dimension de l'autre, bien sûr, et il importerait de préciser un peu ce que c'est ce savoir de l'autre, et notamment le fait que ce que pourrait dire un certain nombre de personnes par rapport à Dieu, et ce qui fait que les chrétiens, notamment les catholiques, ont percé, ont fait dégouliner de Dieu des déluges d'amour. Comme si Dieu, en quelque sorte, ça c'est ce que soutenait Empédocle, ne pouvait pas connaître la haine. Et ce que Lacan ajoute, s'il ne pouvait pas connaître la haine, il ne pouvait pas connaître l'amour non plus. Donc il y a quelque chose là, dans lesquels poser, par rapport à ça, et ce qui n'est habituellement évidemment pas dit, et ça pose effectivement toutes sortes de questions. Donc, que je vais laisser de côté, ce prodéo, en un seul mot, en deux mots. Ce qui est peut-être plus important, effectivement, bien sûr qu'il s'agit de prodéo, de processus d'avancée, mais ce qui est sans doute le plus important, c'est la dimension de cette question de l'arbatus, qui pose la question, effectivement, masquée. Et l'opéra, on pourrait dire que par définition, c'est effectivement, il s'agit bien de présenter quelque chose de l'ordre d'un déguisement. C'est bien tellement vrai que dans un certain nombre d'opéras, le déguisement en lui-même. Il en résulte donc qu'on peut mettre en relation cette articulation sans que, bien sûr, demander à Descartes d'en assumer la responsabilité, entre ce qui est en train de se passer, ce qui va se développer en Italie, du côté de l'opéra, de Monteverdi, je ne reviens pas là-dessus, et ce qui se développe dans le discours scientifique, et ça nous pose la question, je ne parle pas de la pensée scientifique, et ça nous pose la question de ce que vient masquer le discours scientifique. On pourrait dire qu'il faudra, bien sûr, l'opéra va se développer, on en a déjà parlé, va apparaître avec Monteverdi, avec Gluck, l'opéra seria, avec l'apparition des grands airs, avec l'apparition de la voix ornée, de l'ornement de la voix, des arias, qui sont notamment chantés pendant tout un temps par des castrats, ça pourrait être question du déguisement. Chose particulière. Et il faudra pratiquement aller jusqu'au Offenbach pour que justement ce déguisement soit lui-même déguisé. Il y a quelque chose comme ça qui se développe. Alors, l'opéra seria, puis ensuite quelque chose qui va faire repartir l'opéra autrement, qui est l'opéra bouffal, l'opéra bouffe. Et puis, on arrive au 19e siècle, et dans cette période du 19e siècle, progressivement, la dimension de la cette période romantique va glisser, au niveau du théâtre, au niveau de la littérature, mais aussi au niveau de l'opéra, vers la peinture, c'est le naturalisme, par exemple, mais vers la question de ce qui va apparaître en Italie du côté du verisme, c'est-à-dire du côté de, on va dire, la vie quotidienne. Et Verdi, il n'y a pas que Verdi, mais enfin Verdi, bien sûr, bon, c'est Rossini qui est à la fois en Italie et en France, et en même temps, vous savez tout ce qui se passe aussi en Allemagne, notamment avec Weber, et puis Wagner ensuite. Et puis, va apparaître, donc, par le biais de Véronique, quelque chose de particulier, qui est la promotion de la voix à un certain niveau. Alors, ce que je voudrais un peu continuer à développer ce soir, c'est qu'est-ce que c'est que, c'est vraiment au 19e siècle, vous me dites, c'est la scène du monde, puisque c'est la vie quotidienne. Pensez par exemple à un opéra comme, je pense à Puccini, c'est-à-dire à la Bohème, hein, on est tout à fait dans la réalité de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'apparaît quelque chose qui n'est pas seulement une intrigue. Les figures mythologiques, évidemment, ne sont plus de mythes, hein, bien sûr, mais va apparaître la dimension dramatique. Et cette dimension dramatique, elle n'est pas dans le récit en lui-même, parce que le récit, c'est un peu toujours pareil, c'est beaucoup plus dans quoi ? Ben dans cette articulation entre, bien sûr, ce qui est en jeu, c'est-à-dire du côté de l'intrigue, mais aussi du côté de la musique et du côté de la voix. Et j'irai même jusqu'à dire que la voix en elle-même transmet cette dimension dramatique. Et d'ailleurs, on n'est plus dans la distinction opéra seria, opéra bouffa, on n'est plus du tout là. On est dans autre chose qui est, parce que même dans des opéras du 19e, sûrement par exemple Tosca, il y a très peu de grands airs dans Tosca. Il y a deux grands airs. Il y a un air qui est chanté par Tosca au deuxième acte. Et puis un autre qui est chanté par le ténor au troisième acte, qui est Luce van der Stelle. Ce qui fait que les deux durent 5 minutes sur la totalité de l'opéra. Hein. Donc on est dans le fait que une histoire se développe, bien sûr, mais elle est présentifiée, est présentifiée dans cette histoire, bien sûr par l'orchestre, bien sûr, mais aussi et surtout, enfin c'est ce que je voudrais développer, par la voix humaine, quelque chose qui est le drame. C'est-à-dire que on est bien sur le moment où il s'agit de monter sur la scène du monde, hein. Je m'avance masqué, mais non sans transmettre que, bien sûr, c'est pas du tout quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui peut s'en prendre. Or, c'est là l'articulation, est-ce que ça n'est pas quelque chose du même ordre qui est présent dans la voix de celui qui parle, et notamment dans la voix de celui qui parle sur le divan, dans cette relation particulière, qui est une relation de discours, qui se fait à deux, hein, un discours analytique, c'est un lien social à deux, hein, où l'un parle comme il peut, de ce qu'il peut, en associant, en essayant de dire ce qui vient, en sachant justement, ça ne va pas être simple du tout, hein, et puis dans le fait de quelque chose qui, comme quand on chante, notamment dans le chant lyrique, lorsque je chante, évidemment, je n'entends pas ce que je chante. C'est l'auditeur qui entend. Qu'est-ce que j'entends? Ça, j'entends quoi? Ben, j'entends ce qui m'est réfléchi par les murs, par ce qui me revient. Je n'entends pas la voix déjà sur le plan sonore, sur le plan des vibrations acoustiques. Ça, c'est une chose. Et puis alors, il y a autre chose qui est la voix comme objet, cause du désir, objet tita, qui n'est pas du tout le sonore. C'est autre chose. Vous voyez que cette voix, quand on parle avec Lacan, dans le cas de la pulsion Lacan, ça n'est pas du tout une voix qui s'entend, on va rajouter, acoustiquement, c'est-à-dire avec les oreilles. C'est autre chose. C'est l'énigme de cette autre chose. Et on peut penser que dans cette présentification du drame, tel qu'il apparaît, tel qu'il nous est transmis, il y a ce quelque chose d'insaisissable, c'est-à-dire que ça n'a aucun être, c'est ça l'objectif, hein, c'est quelque chose qui est présent comme vide dans toute demande, c'est pour ça que c'est l'objet cause du désir, hein. C'est quelque chose que Lacan va rapprocher, bien sûr, de la métonymie, hein, donc c'est quelque chose qui a à voir avec le langage, et c'est parce que nous sommes fils du langage que ce quelque chose advient, et du coup, c'est quelque chose qui nous pose la question de cet insaisissable qui est l'inconscient structuré comme un langage. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose là qui se dit. Alors, on pourrait dire qu'il se dévoile en se voilant. Enfin, je trouve que c'est bien d'imaginariser les choses. Ça, on comprend un peu quelque chose. Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que ça touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, de l'infinitude, et qu'on peut pas saisir, et c'est quelque chose qui s'entend. C'est pas quelque chose qui se pense, qui se comprend, c'est quelque chose qui s'entend, et c'est ça la signifiance. La signifiance, c'est quelque chose qui s'entend. Le signifier, c'est un effet de la signifiance. C'est une lecture de la signifiance. C'est pas quelque chose qui s'entend. Donc, vous voyez qu'on est là d'emblée dans des champs, c'est le cas de dire, dans des champs qui sont très proches et qui posent la question de ce qui est au cœur du discours analytique. J'insiste bien, c'est le discours, c'est-à-dire que ce dont j'essaie de parler, la suite de Lacan, c'est des faits de discours, ce n'est pas des données, ce n'est pas des connaissances dites psychanalytiques. Pourquoi ? Parce que dès qu'on est dans le champ de la connaissance, ça va être ce dans quoi va partir Descartes, il y a ce qui est caché et puis il y a ce qui est révélé, ça la connaissance. Eh bien, qu'est-ce qui est occulté si on prend en compte ce que je viens de dire, c'est la dimension du langage. La connaissance va se développer en rejetant la dimension du langage. Et la psychanalyse va apparaître à un certain moment. Pourquoi ? Parce que ce rejet du langage est tellement étouffant pour l'être parlant, de par le discours scientifique qui se développe, le scientifique qui a fait des petits, on pourrait dire le discours du maître, des discours universitaires, notamment, c'est tellement étouffant que il faudra un poumon artificiel, c'est l'image de Lacan, il faudra un poumon artificiel pour que la vie continue à pouvoir être vécue, sans qu'on sache bien ce que c'est que la vie, bien sûr. Parce que la vie, c'est aussi quelque chose d'insaisissable. Alors, je vous disais tout à l'heure, finalement, je parle, quand je chante, c'est plus évident quand je chante, mais celui qui entend, celui qui est en position de récepteur, entend quelque chose que je ne peux pas entendre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que je ne peux pas être à la fois celui qui parle, celui qui émet, et être le récepteur. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Ce qui a fait dire à Lacan, justement, qui rapproche de cette dimension de la signifiance, l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée. C'est très énigmatique, Très énigmatique. Mais c'est quelque chose, quand même, qui est lié à ce qui échappe au sens. On peut au moins dire ça, c'est pas quelque chose qui renvoie à la dimension du sens. La question, une des questions donc qui nous intéresse, c'est celle de savoir ce que tout ça peut donner lorsque la voix de l'autre, je l'entends. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que je peux entendre quelque chose qui ne relève pas du sonore, de l'acoustique, du son. C'est-à-dire que même s'il y a le sonore, c'est en fait autre chose qui est transmis. Pour dire les choses plus simplement, lorsque par exemple j'écoute ou j'entends quelqu'un parler, par exemple Lacan faisant son séminaire, Qu'est-ce que j'entends de la voix? De la voix qui est portée par le sujet Lacan. Parce que c'est ça la question. De même, quand quelqu'un chante, qu'est-ce que j'entends dans la voix que lui n'entend pas, j'insiste bien, lui, il est articulé à ce qui se passe au niveau de son corps, notamment, ça se passe plus ou moins facilement, et de telle façon que je dirais qu'il se trouve dans ce qu'il habite à ce moment-là. C'est compliqué, on va vous parler de sensations, c'est plus élaboré que ça, mais c'est sûr qu'il faut qu'il soit présent au niveau de l'instrument qu'il est, en quelque sorte, à ce moment-là, hein, comme l'instrument dont il joue. Hein, c'est bon qu'il joue, on pourrait dire. Eh bien, ça permet d'avancer que le fait de parler, et je joue, le fait de chanter, conduit au fait, alors, d'entendre quelque chose que l'on peut appeler quelque chose qui relève de la jouissance, et là c'est pas le plaisir, hein, c'est beaucoup plus élaboré, hein, jouissance, deux mots, et ce quelque chose qui relève de la jouissance dépasse les mots, n'est pas lié aux mots, et n'est pas lié, on pourrait pratiquement dire, ça c'est une question, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, j'allais dire à la musique qui porte les mots. C'est pas si sûr que ça, parce que la musique qui porte les mots, finalement, par le biais des voyelles, et non pas des syllabes, par le biais des voyelles, va transmettre quelque chose, on en a déjà parlé, quelque chose notamment du brillant de la voix, c'est-à-dire du timbre, de la rondeur de la voix, quelque chose de particulier, qui s'obtient par un travail au niveau du corps, mais pas seulement, il y a autre chose, c'est un peu comme si, tout ce qui intervenait à ce moment-là, le corps, donc le corps avec tout ce qui venait du système de l'air et de la respiration, tout ce qu'il en est d'une façon ou d'une autre, on pourrait dire comme ça, d'une certaine aptitude, mais qui renvoie à quoi? Qui renvoie au rapport au langage, celui qui chante, de toute façon, quelque chose qui a à voir avec le symbolique. Et puis autre chose, ferait que, vous voyez qu'on serait en quelque sorte au niveau de trois éléments qui se réuniraient. Et évidemment, on ne peut pas nous penser à la création d'une tresse qui arriverait à former quelque chose qui serait seul. Alors quoi? Bien sûr, c'est du son, mais il y a quelque chose de plus. Cet ornement, ce quelque chose de particulier, qui n'est pas forcément quelque chose d'assez préparé pour apprêter sur des vocalises, comme ça pouvait l'être au début dans l'opéra. Mais, puisqu'on parlait du drame, quelque chose qui puisse transmettre, évidemment, au-delà de ce qui est dit, hein, quelque chose qui fasse entendre cette dimension signifiante, insaisissable, qui pourrait tout à fait convenir pour en même temps transmettre, c'est-à-dire faire entendre cette question du drame. Du drame, de la voix dramatique qui apparaît notamment au 19e et notamment la deuxième partie du 19e siècle. Bien sûr que c'était déjà là avant, plus ou moins préparé, on trouve ça évidemment avec Mozart, avec Beethoven, je parlais de Weber tout à l'heure, Wagner, bien sûr, on peut aussi trouver ça avec Rossini, même s'il y a aussi autre chose, et puis bien sûr Verdi et Puccini, enfin, pour un peu situer les choses, en France on a le meilleur maire. Il y a comme ça un certain nombre de créateurs d'opéra qui peuvent être convoqués en quelque sorte. Hein. de ce côté-là. Il en résulte donc que tout cela fait que il est possible effectivement de prendre en compte ces données de telle façon que, vous voyez, ça ne va pas de soi, cette affaire-là. Ça ne va pas de soi de transmettre quelque chose qui dépasse la musique. Hein? Et il va y avoir, alors bien sûr, Wagner a beaucoup l'utilisé, la question des leitmotifs, hein, mais aussi d'autres. Hein, si vous écoutez des opéras, souvent vous allez entendre quasiment l'aria qui est déjà présentée par l'orchestre, à la flûte, ou au bois, ou au basson, etc. Il y a quelque chose qui peut apparaître comme ça, hein, à plusieurs reprises, donc il y a comme ça quelque chose qui dépasse d'ailleurs la présentification de tel ou tel personnage, comme avec Wagner. En fait, il y a quelque chose comme ça qui apparaît, et ce quelque chose qui apparaît, bien sûr, eh ben, il ne peut pas s'enseigner. Voilà. C'est pas du discours universitaire, c'est pas du discours du maître, c'est autre chose, et s'il y en a une qui, je dis une voix, mais aussi une unique qui a pu le transmettre, c'est Maria Callas. Un jour, je pense que j'en parlerai de façon un peu plus détaillée. Il y avait quelque chose dans sa voix de particulier et qui dépassait tout ce qu'on pourrait dire et qui s'entendait. Quelque chose de particulier. Donc, vous voyez que un signifiant présente un sujet pour un signifiant, c'est pas quelque chose qui se comprend. Hein. Mais quand même, c'est en quelque sorte de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle, c'est pas une opération intellectuelle. C'est une opération signifiante, hein, et on pourrait dire que dans ce tonneau de la signifiance peut couler parfois, hein, c'est une image de Lacan, à plein boc, hein, le flot de la signifiance. Hein, c'est ça un peu. Passer. À certains moments, je crois que c'est ces moments-là particuliers qui sont tout à fait importants quand ils surviennent, mais ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. C'est au un par un, puisque chacun pourra entendre quelque chose. Et le un par un, ça nous amène, bien sûr, en regard de l'histoire analytique, à ce qui est en jeu, dans ce un par un, plus exactement dans ce une par une, qui est la dimension de la jouissance humaine. La jouissance sexuelle a d'un côté, j'appelle le sexuel, et Freud est resté en retrait par rapport à ça, on a déjà beaucoup développé ça, Freud ne considère que la jouissance, ou ce qu'il appelle la sexualité, hein, c'est que le sexuel vu du côté homme, du côté du tout homme, hein, c'est pour ça qu'il est resté sur une question, c'est agenouillé, on pourrait dire, devant une question, que veut la femme, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu, il n'a pas pu aller au-delà, c'est déjà pas mal ce qu'il nous a transmis, c'est même énorme, mais c'est de tout le mérite de Lacan d'avoir repris dans le séminaire encore, notamment, cette question, il le dit dans le séminaire, où il pose la question et il répond au fait que s'il y a la jouissance toute phallique, qui est celle du tout homme, pour dire les choses simplement, en termes de discours, c'est celle qui est liée au mot, au sens, celle selon quoi habituellement on navigue comme on peut, hein, c'est-à-dire que le sens c'est quoi, c'est le sens sexuel, de toute façon ça renvoie toujours à ça. Le problème c'est que la découverte du discours analytique, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Donc le sens sexuel vient recouvrir quelque chose qui n'est pas tout dans cette jouissance phallique et cette dimension du pas tout, ce qui ne peut pas être tout, c'est cette jouissance supplémentaire qui est au un par un, c'est du féminin, à ceci près que, bien sûr, je ne parle pas du tout, quand je parle masculin et féminin, je ne parle pas de la répartition génétique, on va dire de l'état civil. C'est pas lié au caractère sexuel, qu'il soit primaire, secondaire ou tertiaire, tel qu'à la fin du 19e, ils ont été présentifiés. C'est d'autres choses dont on parle du sexuel, je me réfère à Lacan, et je me réfère à la dimension du langage, et à ces deux types de jouissance, et au fait qu'effectivement, c'est pour autant que l'être parlant, chacun d'entre nous, parce qu'il le peut, il a le choix d'être d'un côté dans la fonction phallique, c'est-à-dire du côté sexuel homme, mais d'être aussi, pas tout dans la jouissance phallique, c'est-à-dire d'être du côté de la jouissance féminine, et c'est de ce côté-là, de cette jouissance supplémentaire, que se pose la question d'entendre, ce qui fait dire que, ce qui permet d'avancer que, c'est la dimension du féminin qui est la plus proche de quoi ? De ce dont nous sommes radicalement séparés, qui est cette dimension que Lacan a notée du grand A, barré, du grand autre. Nous en sommes radicalement séparés, et pourtant, le savoir, il est dans l'autre. Et c'est un savoir qui est lié à la dimension du signifiant. Voilà un peu ce que je voulais apporter là aujourd'hui par rapport à cette question qui ne va pas de soi du tout. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte ce qu'on touche du doigt, ce qui peut pousser en direction de quoi ? On va dire la culture arrogante, mais c'est pas simple. Hein. Ce qui peut pousser à essayer de trouver quelque chose dans ce corps qui n'est pas le corps anatomique, même si on passe par le corps anatomique pour fabriquer les sons, et qui émet quelque chose. C'est une question qu'on m'a laissée en suspens, je vais m'arrêter là-dessus, qui émet quelque chose qui n'est pas sans mettre en direction du réel, bien sûr, du réel de la structure, c'est-à-dire de quelque chose qui s'entend, pas quelque chose qui se pense et qui se comprend, de quelque chose qui peut s'entendre, mais surtout qui n'a pas d'être. C'est pas quelque chose qui, en tant que tel, peut être, je dirais, gardé. Thank you.